La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère-Fontani. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Anaël Pija, Yasmine Youssi et Florian Guettet pour parler ensemble de Robert Adams, Our Lives and Our Children. C'est à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Auguste Sander, persécuté et persécuteur des hommes du XXe siècle au mémorial de la Shoah. Et enfin David Hockney, Pictures of Daily Life et Portraits à la galerie Lelong et Compagnie. Aïssa Toundoy est là, surveillant déjà les feeds Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez faire ou les questions que vous auriez à poser sur le programme du soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des places de cinéma pour le film Une année polaire de Samuel Collardet qui est sorti ce jour et dont nous parlerons d'ailleurs vendredi dans la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec un événement à découvrir à la Fondation Henri Cartier-Bresson, puisque c'est la première fois que l'on peut voir à Paris l'intégralité de la série Our Lives and Our Children, nos vies et nos enfants, je vous offre la traduction, œuvre majeure du photographe américain sur le catastrophisme écologique. L'histoire raconte qu'il a vu une colonne de fumée qui s'élevait au-dessus d'une usine de production d'armes nucléaires dans le Colorado et que cela lui a donné l'idée de ce projet dont on va parler et qui donne à voir en tout cas peut-être ce qu'une catastrophe nucléaire pourrait détruire. Qui est très guiré, hein, cette chanson de Kenneth Heath, pour introduire un sujet extrêmement guiré, lui aussi, hein, vraiment, tout ce que c'est que cette Amérique mise en image, mise en boîte, capturée par Robert Adams. Yasmine Youssi a disposé ses fiches devant elle. La première s'intitule Robert Adams, intro.
Comme toutes les premières fiches.
Oui, mais on donnera le titre des suivantes, puisqu'il y en a quatre. Nos auditrices et auditeurs le savent bien. Intro.
Écoutez, moi j'ai...
J'écoute. C'est parti.
C'est mon collègue Luc Desbenois qui écrit sur la photo, qui a trouvé, je trouve, le terme le plus juste pour parler de cette exposition. Il dit que finalement, avec cette série, Robert Adams invente un genre, la photographie d'anticipation. Comme les films d'anticipation, je trouvais que ça collait très bien. Et c'est un régal absolument glaçant. Mais un régal quand même qui révèle déjà une part. Enfin, cette série, elle est un peu à part dans le travail de Robert Adams, qui écologiste avant l'heure a essentiellement photographié des paysages où il n'y avait jamais personne, des paysages du Grand Ouest américain saccagés par l'urbanisme. Et puis il y a cette série, qui est aussi un travail assez fascinant sur l'Amérique profonde des années 70. On sent qu'elle est il y a un moment de basculement, quoi. On va passer dans autre chose. Et puis surtout, cette série, c'est à mes yeux, enfin moi qui est vraiment un amour profond pour la photo, elle dit bien le pouvoir de l'image. Vraiment, parce que...
Ça, c'est l'affiche numéro 2.
Hein. Ça, c'est l'affiche numéro 2.
Robert Adams, le pouvoir de l'image.
Est-ce que... Alors, je retourne l'affiche numéro 1.
Voilà. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces images, Yasmine?
Mais écoutez, ce qu'on y voit, c'est des ce qui fait toute la richesse de l'Amérique, ce qui fait la grandeur de l'Amérique, c'est-à-dire sa jeunesse, l'avenir de l'Amérique. Cette jeunesse, que ça soit des sportifs, que ça soit des mères avec des enfants, que ça soit des couples, des familles qui sont au supermarché, qui sortent du supermarché. Sauf qu'il les a captés. Donc lui, il s'est dit, il a inventé un scénario. Il s'est mis dans l'idée de montrer à ses concitoyens que il y a une centrale nucléaire juste à côté et que on pourrait disparaître de la surface de la Terre, enfin qui pourrait disparaître de la surface de la Terre en 3 secondes. Donc par le pouvoir de la photo, par des cadrages ultra serrés, par une lumière, une forte luminosité, il prend des instantanés et là encore le pouvoir de la photo, c'est-à-dire une nanoseconde, vous prenez un mouvement, une grimace, et tout d'un coup, tout le sens de la photo change. Et là, comme il y a cette idée derrière que ça peut exploser, ça a explosé, on va faire comme si ça avait explosé, tout d'un coup, vous regardez les images, et la mère qui porte son enfant, on a l'impression qu'elle est saisie d'angoisse, la moindre fissure sur le sol donne le sentiment qu'il y a eu une déflagration et que c'est bientôt la fin. Guy va à l'aéroport, il photographie une mère avec sa valise qui sort d'une voiture, elle doit être pressée, sauf que nous, on la regarde. Et on se dit, ça y est, elle fuit, il s'est passé quelque chose. Et il y a une angoisse qui monte comme ça, une tension qui monte.
Mais qui est créée vraiment par le... C'est le pouvoir de l'image, c'est pour ça qu'il y a le titre de cette fiche.
C'est un super titre, non ?
C'est vrai, le pouvoir de l'image, c'est de nous faire croire, en effet,
exactement,
que la situation est catastrophique.
Et catastrophique, et que c'est l'apocalypse, quoi.
Apocalypse now. Annaëlle Pigeat, pour poursuivre et continuer à explorer cette série de Robert Adams.
Peut-être pour dire un mot de l'accrochage de cette série, qui, en fait, c'est vraiment, enfin, l'exposition est vraiment sur la série. Elle est extrêmement précise parce qu'elle est complétée aussi de quelques bribes d'autres séries. Une série de photos qui, en fait, datent de la même époque et qui, au fond, sont en quelque sorte de la même série, sauf qu'elles sont d'un autre livre qui s'appelle No Small Journeys Across Shopping Center Parking Lot Down City Street.
Traduction.
Il n'y a pas de petit voyage dans un centre commercial, un parking de centre commercial en ville, en gros.
C'est bien.
C'est les mêmes dates, c'est la même série. Donc voilà, il y a la grande série qui est étalée le long du mur, c'est une ligne. Les photos sont très espacées. Et en fait, ce qui est très beau dans cet accrochage, c'est que ça donne quelque chose d'extrêmement cinématographique à ces photos. On a vraiment l'impression que l'histoire se déroule comme ça. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve des personnages, il y a des sortes de bonheurs d'accrochage comme ça, notamment une petite fille qui a une robe sur laquelle il est imprimé Watermelon, qu'on retrouve de part et d'autre de la pièce, ce qui crée donc une qualité d'attention, enfin ce qui conduit les visiteurs à vraiment faire attention aux images et à rentrer dans ces gestes que j'ai trouvé aussi d'une extrême tendresse, parce que l'effet de qui crée de l'angoisse comme ça que Yasmine a très bien décrit fait aussi ressortir la grande tendresse qu'il y a dans ces gestes, les premiers gestes de ces enfants, une petite fille qui tient sa poupée, un autre qui se gratte la jambe, des petits-enfants dans les bras de leurs grands-parents, une arrivée à l'aéroport en poussette. Enfin, voilà. Il y a, donc, l'accrochage comme ça évoque quelque chose aussi de très mélancolique. Moi, finalement, toute cette atmosphère m'a beaucoup fait penser au film La Jetée de Chris Marker, qui justement est un roman photo, et dans lequel le personnage principal, au début du film, voit une scène dont on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'image de sa propre mort qu'il contemple. Et je trouve qu'il y a un écho entre le film de Marker et cette série qui est assez frappant.
Alors, je ne l'ai pas dit, c'est Agnès Cyr qui est la commissaire de cette exposition,
et de
toujours
cet accrochage
directrice artistique de la Fondation Henri Cartier-Bresson, plus pour très longtemps.
Elle continue. Oui, c'est François Hebel va prendre la direction générale.
Ah, d'accord. Ah,
bon. J'ai bien compris. Hein.
Ah, ben,
François Hebel va prendre la direction générale de la maison et Agnès Cyr va continuer à faire les expositions, elle va se consacrer à l'artistique.
Avant de revenir vers vous, mesdames, on n'a pas encore entendu Florian Guettet. Premier regard sur cette exposition de Robert Adams de cette série Our Lives and Our Children.
Bah, je rejoins totalement Anaëlle sur le terme de cinématographique. C'est vrai qu'on rentre dans cette exposition comme dans un film. Effectivement, cet accrochage linéaire rappelle un storyboard ou une pellicule, en tout cas quelque chose d'assez séquencé. Et puis, il y a effectivement une progression, puisque si on sait le sujet en fait de cette série, si on connaît le catastrophisme, la tendance un peu décliniste de Robert Adams, on ne l'aperçoit pas dès les premières photos. Et dès les premières photos, au contraire, on est dans quelque chose d'assez banal. On est
vraiment dans la vie quotidienne. La petite ville américaine.
Comment continuer à vivre, parfois dans l'inconscience du danger qui nous guette, mais parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à penser à la mort qui est possible, à l'explosion, à l'accident potentiel, à la catastrophe.
En fait. Alors que c'est quand même une psychose très répandue à ce moment-là aux États-Unis.
Oui, tout à fait.
Au moment où on construit des abris anti-atomiques, etc.
Tout à fait, mais après c'est un réflexe humain que de refouler aussi ces angoisses-là. Donc on a au début
des pour survivre.
N'est-ce pas? On a des images donc qui sont assez familiales, qu'on pourrait croire sorties d'un album de photos qu'on a tous, puisqu'en plus elles sont prises à la volée. Robert Adams, qui d'habitude prend son temps, aime beaucoup faire poser, ou en tout cas être dans une certaine mise en scène, dans une certaine patience, ben là, rompt complètement avec ce dispositif.
Oui, parce que c'était la question du jeu de la dispute d'hier ou d'avant-hier. Comment cachait-il son appareil photo, Robert Adams, dans son sac de provisions? Donc vraiment, ce sont des photographies volées.
Tout à fait. Et du coup, elles sont souvent en contre-plongée, il y a des flous, il y a beaucoup de contre-jours, donc parfois on a aussi nous-mêmes dans une forme d'inconfort de lecture, et cet inconfort en fait grandit et on commence à voir que l'urgence de la prise de vue est aussi l'urgence de la situation. Et le parcours est tellement bien organisé, donc c'est deux salles, c'est très simple, hein. Il y a une respiration au milieu pour rappeler quand même ces paysages naturalistes, avec une sorte de paysage de résilience, hein. C'est une sorte de tronc qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas, et une jeune branche qui essaie de sortir de là, donc qui pourrait être une vraie respiration en tout cas dans cet accrochage. La possibilité pour la nature de reprendre les droits sur la civilisation qui l'a détruit, et le parcours est organisé de telle sorte que plus on monte, plus finalement l'angoisse se fait sentir, jusqu'à ces trois dernières photos qui sont en fait des visions d'angoisse dans trois âges. Il y a une femme qui est au bord des larmes, un homme qui est un vieil homme, en tout cas un peu plus mûr, qui est assez angoissé, et puis un petit enfant seul dans sa poussette. Et à la fin, on a plus de doute sur effectivement le sujet et ce que vise l'enjeu en tout cas de cette série-là, mais elle se décrive et on l'accompagne véritablement, parce qu'on l'accompagne comme dans un film, d'une façon assez narrative. Et pour ça, c'est extrêmement réussi.
Yasmine aussi ?
Oui, et vous parliez de l'accrochage, ce qui est très réussi. Moi, j'ai trouvé ça assez fort et même plutôt original et assez emblématique de la Fondation, c'est-à-dire que c'est une ligne qui continue à l'étage suivant, mais exactement de la même manière. Et on la reprend aussi comme ça, et on continue vraiment à être dans le film. C'est la dernière exposition, comme vous le disiez tout à l'heure, dans cet espace-là, dans ce lieu, puisque la Fondation est amenée à déménager. Je crois que c'est à l'automne prochain qu'elle ouvrira ses portes. Là, on va jusqu'en juillet, puis à l'automne prochain, elle ouvrira ses portes dans le Marais, et pour se redéployer dans un lieu beaucoup plus grand. Je trouve que c'est très joli de finir sur cette exposition dans ce lieu-là, parce que bien sûr, rien n'est fini, parce qu'elle dit bien ce qu'a été la politique de cette maison, qui a été vraiment pionnière dans sa manière, dans ce qu'elle a montré. On est à chaque fois surpris quand on va voir une exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Sa programmation n'a jamais été prise à défaut, ce qui n'est pas le cas de
ces
toutes
accrochages
les ces accrochages non plus, ce qui n'est pas le cas de tous les lieux dédiés à la photo à Paris. Le jeu de paume, moi, il y a des moments où j'ai vraiment l'impression de voir la même expo qui se répète et de pas avoir une vision assez complète. C'est toujours une manière de révéler ce qu'on connaît le moins d'un photographe. Je trouve que c'est extrêmement gonflé aujourd'hui de faire une exposition, une et une unique exposition sur une série entière des années 70. Aujourd'hui, on voit pratiquement plus ça. C'est un peu de ci, un peu de ça pour vous donner... Voilà, et il y a cette rigueur dans cette maison qui n'a jamais été une rigueur qui vous tient à part, mais au contraire un lieu qui vous englobe, enfin qui vraiment vous prend par la main. Et voilà, donc j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner dans les locaux. Mais on a passé plusieurs années, là, presque 10 ans, plus de 10 ans, je crois.
Ouais, 10 ans, un peu plus, c'est ça, ouais. Bah, tout à l'heure, j'évoquerai une exposition de Sander en 2008.
Plus donc de 10 ans, je crois que c'est ouais. 2004, la mort ouais. d'Henri Cartier-Bresson, dans ces années-là, elle était déjà ouverte, ouais.
Ben vous voyez. 15 ans, bon, alors pour l'instant, on reste au présent avec oui. Robert Adams. On revient avec vous, Annaëlle Pigeat, sur cette exposition.
Oui, je voulais reparler de la précision du choix des œuvres et de l'économie de moyens, de la sobriété de ces choix. Donc cette série, le petit complément de la deuxième série qui est en fait un autre livre, et puis un petit morceau, enfin une petite vitrine sur une autre série qui s'appelle Interiors, qui sont des photographies d'appartements vides, qui sont comme le contre-champ en fait des images qui tournent autour de la pièce, et une vitrine avec des livres, parce que Robert Adams a aussi beaucoup écrit et beaucoup écrit, commenté la photographie. Ce que je voulais redire aussi sur cette série, c'est que au fond, dans l'œuvre de Robert Adams, elle est à part parce qu'elle montre plus d'une certaine manière. Il y a beaucoup, enfin, il y a des personnages, alors qu'il y en a peu dans le reste de son œuvre. Il y a une activité débordante finalement. Et ce côté cinématographique dont on parlait, c'est qu'en fait, on imagine toutes sortes de narrations, toutes sortes d'histoires qui se déroulent sous nos yeux. Et finalement, cette activité débordante, cette prolifération d'informations, c'est en fait une exposition sur l'invisible.
Florent Guettet, dernier mot peut-être sur Robert Adams?
Oui, ben je crois que la question qui se pose et qui se posait à l'époque et qui se pose encore aujourd'hui, c'est quel monde laissons-nous à nos enfants. Et cette histoire de l'héritage, ben elle a pas pris une ride, et on a beau être effectivement dans quelque chose. Alors c'est très bizarre, parce que moi en fait, effectivement, je crois que la série a été prise sur 3 ans, je crois 79-82. Et en fait, on pourrait croire que c'est la même journée. C'est-à-dire que le ciel est tout le temps le même, il y a très peu de nuages, c'est assez accablant d'ailleurs. Vous disiez glaçant, mais c'est aussi contrebalancé par quelque chose d'extrêmement chaud, comme s'il y avait aussi cette lumière nucléaire là. Et finalement, en fait, elle ne cesse de nous interroger aussi à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que finalement, même si le terme n'existait pas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anticipation, qu'il y a quelque chose déjà d'une réflexion sur l'anthropocène et sur la façon dont l'homme négocie très mal avec son environnement naturel. Et reste, en fait, cette idée d'un certain nomadisme, d'une certaine, c'est-à-dire que tous sont finalement dans des lieux de passage, dans des lieux comme s'il y avait une forme d'instabilité. Alors c'est vrai qu'on a cette série à la fin d'intérieur, et moi je l'ai trouvé presque ironique parce que ce sont des intérieurs complètement vides. C'est-à-dire qu'on pourrait croire aussi que la ville a été désertée, parce qu'on finit là-dessus.
Ce sont on pense assez, vous savez, à ces villes fantômes, justement, on faisait des essais nucléaires pour voir comment l'habitat pouvait résister ou pas aux déflagrations.
Et depuis, il y a eu Tchernobyl et Fukushima.
Aussi.
Et le soin qu'on sent dans ces images apporté à la décoration de l'appartement, au côté coquet de tous ces intérieurs, apparaît comme très dérisoire, en fait.
Tout à fait. Je suis assez sur une forme de jugement en suspens, en me disant que finalement, il avait peut-être pour la première fois compris que l'avenir de la sédentarité, c'était le nomadisme, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment que d'être tous des migrants et des exilés. Et j'ai trouvé ça assez frappant, et d'une façon qui est pas militante, qui est pas, il fait pas de prosélytisme, il vient pas chercher notre jugement, il vient pas nous l'imposer, il y a pas de morale. Mais par contre, il ouvre tout ce champ d'interrogation-là, et je trouvais ça incroyablement stimulant.
Ben voilà, vous voulez être stimulé, eh bien allez à la Fondation Henri Cartier-Bresson, vous avez jusqu'au 29 juillet pour ce faire et découvrir sur place cette série de Robert Adams, Our Lives and Our Children, et dire aussi que Seidel vient de rééditer le livre qui était, ai-je lu, épuisé depuis 30 ans. Donc deux bonnes nouvelles à suivre dans la dispute, Auguste Sander et David Hockney.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques et à nouveau à la photographie, puisque nous allons parler de l'exposition Auguste Sander, persécuté, persécuteur des hommes au XXe siècle, à voir jusqu'au mois de novembre au mémorial de la Shoah à Paris. Rappelons que Auguste Sander est né en 1876, qu'il est mort en 1964. On peut donc dire que le photographe allemand a vu plus que son lot d'horreurs. On connaît assez bien son travail, qui est régulièrement exposé. C'est l'un des pères, rappelons-le, de la photographie documentaire. On se souvient donc peut-être notamment d'une grande exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson, enfin grande pour cette petite maison. Alors c'était 2009, pas 2008, cette expo-là de Auguste Sander, qui reprenait d'ailleurs pour titre la devise professionnelle du photographe, voir observer, penser, les trois verbes voilà, qui le guidaient. Son grand œuvre, Sandler l'a appelé « Les hommes du XXe siècle », une compilation de centaines et centaines de portraits réalisés là, sur plusieurs décennies, radiographie de la société allemande dans son ensemble, je ne sais plus, je crois que c'est 600 métiers, enfin, et au-delà des métiers aussi, jusqu'aux gens vivant dans la rue, sans emploi justement. Au Mémorial de la Shoah, on va découvrir une part de ce travail, alors sous l'angle spécifique des persécutés d'un côté, militants communistes, tziganes, prisonniers politiques, et Sandler a aussi intégré les photos prises par son fils, qui lui-même était militant communiste, qui a été arrêté par la Gestapo en 1934, qui avait réussi à faire des photos en prison, non seulement à faire rentrer des films photographiques, mais aussi à faire sortir des clichés. Il mourra en prison, le fils d'August Sanders, en 1944. Le père, lui, il a fait aussi des séries photographiques de jeunesse hitlérienne, de membres de la SA et de la SS. Tout ça se trouve dans cette exposition mémoriale de la Shoah. En effet, nous sommes à l'antenne. August Sander, persécuté, persécuteur. Il serait d'ailleurs assez juste d'ajouter le nom de son fils Eric en titre et en affiche aussi de cette exposition, puisqu'il a bien intégré, hein, je l'ai dit, c'est les clichés de son fils. Alors j'ai quand même pris le temps de recontextualiser, mais ça ne vous empêche pas d'introduire également Anaëlle Pigeat. Sans fiche, mais avec des feuilles qui sont toujours extrêmement... d'abord, à porte de vue, écrit tout petit.
Ça permet de pas les lire.
Et avec beaucoup de notes, donc généralement, vous ne retrouvez pas le titre que vous cherchez au moment où vous le cherchez. Alors,
c'est à peu près ça. Donc, cette exposition, en fait, est intéressante à beaucoup d'égards, et à commencer par la présence du fils d'Auguste, Eric, dans l'œuvre de ce père de la photographie. Finalement, on se dit, à la sortie de cette exposition, que s'il n'était pas mort en 1944, Eric, l'œuvre de Sander aurait peut-être été finalement assez différente de ce qu'elle est. De la manière dont on la connaît aujourd'hui.
Ouais, il avait commencé quand même bien avant son travail.
Bien sûr.
Ça commence dans la République de Weimar.
Bien sûr. Alors, donc, l'exposition, pour en dire un mot de manière plus large, présente un fragment des hommes du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes du XXe siècle sont un ensemble de photographies extrêmement connues, mais finalement l'exposition montre qu'il y a encore des recherches et des découvertes à faire sur ce corpus. Des découvertes à plusieurs égards. D'abord, je trouve que la figure de Sander, qu'on connaît comme vraiment une figure de la photographie documentaire, apparaît là vraiment comme particulièrement humaniste, puisqu'on voit dans la plus belle salle de l'exposition, face à face, les portraits des Juifs persécutés et les portraits glaçants des nationaux-socialistes qu'il a photographié dans son studio, puisqu'il a en fait une boutique de photographes en ville et qu'on vient chez lui se faire photographier, les Juifs pour faire les papiers d'identité qui sont devenus obligatoires, et les nazis pour aussi rentrer dans les albums des familles. Il y a deux types de photographies dans cet ensemble. Il y a des photographies qui observent les critères des photos d'identité, c'est-à-dire de profil dans lequel il faut voir le nez et l'oreille, ce qui est là aussi particulièrement glaçant. Et puis, il y a d'autres photographies qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, dans lequel les personnes photographiées regardent l'objectif, regardent le photographe. Et je trouve que dans cette série, ce qui est particulièrement bouleversant, ce sont ces regards qui sont vraiment tous à la fois des regards intérieurs, des regards au-delà des choses, qui sont vraiment extrêmement marquants. Donc, ce côté humaniste, une découverte artistique, on en parlait parce que c'est la présence de son fils, donc Eric, dont certaines photos sont intégrées aux hommes du XXe siècle par le père après la mort du fils en 1944, puisqu'il est mort d'une appendicite non soignée en prison. Et puis, il y a aussi toute une part de recherche qui est menée par le mémorial de la Shoah, et c'est vraiment là une vocation du lieu, qui a mis en lumière les destins de personnes photographiées dont on ignorait quasiment tout jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a une recherche documentaire, et il y a des petites fiches très bien faites dans l'exposition qui racontent, qui humanisent en fait ces gens encore plus, et qui racontent l'histoire.
Qui leur redonnent un nom, qui leur redonnent une identité, une personnalité.
On apprend qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, voilà. La structure de l'exposition, il y a en gros une introduction documentaire qui raconte la vie de Zander, la famille, la maison et la famille avec les progressistes de Cologne, un lieu très chaleureux où les intellectuels se rencontrent et où on parle. Il y a ensuite un petit ensemble qui donne une idée des hommes du XXe siècle. Et puis, après la grande salle ronde dont je parlais à l'instant, il y a une série de planches contact qui n'ont pas été sélectionnées, mais qui ont été tirées là et dans lesquelles Zander a pioché pour fabriquer son corpus qui se termine par le masque funéraire de son fils.
Florian Guettet, à présent, premier regard sur l'exposition du Mémorial de la Shoah, dont les commissaires sont, je ne l'ai pas dit, Sophie Nagiscard et Marie-Edith Agostini, assistée de Noémie Fillon.
Alors, juste un regard d'ensemble. Moi, la scénographie a été pour moi assez difficile à appréhender. Je la trouve vraiment très lourde, très austère, un peu sépulturale, avec effectivement trois traductions à chaque fois, anglais, français, allemand, qui alourdissent énormément ça, qui saturent. Donc, c'est vrai que la première salle documentaire était un peu compliquée pour moi, parce que il y avait cette sorte de plaque un peu de partout. On ne savait pas trop comment diriger notre regard. Et finalement, ça noie un petit peu les documents. Mais quand on fait abstraction de ça, eh bien, on redécouvre quand même l'œuvre de Zander, parce que en fait pas exactement de Zander, mais plutôt de son alter ego. Tout à l'heure vous avez dit que ça aurait été bien de rajouter aussi Eric dans le nom. Moi je crois que Eric est le point central de cette exposition. Il m'a énormément touché personnellement dans son travail. Alors c'est sûr que dans ce travail on n'arrive pas toujours à faire la différence avec le père, ou à tel point que les cinq photographies qui ont été rajoutées à la série des persécutés par Auguste Zander après la mort de son fils, sont signés Auguste Zander. C'est-à-dire sur les cartels, c'est encore écrit Auguste Zander. Et à la fin, on a finalement ces planches contact, dont une partie donc fait partie de la sélection d'Auguste, et puis l'autre partie sont parmi les 2000, parce qu'il a quand même pris 2000 en prison d'Eric Zander. Et là, on découvre qu'en fait, effectivement, celles qui sont au mur, ce sont celles de son fils. À cela s'ajoute que Eric Zander est un persécuté particulier qui va devenir dans l'œuvre d'Auguste, mais finalement qui a une valeur très symptomatique de l'époque, le visage de l'Allemagne nazie et de la victime de l'Allemagne nazie. On voit à la fin de la série sur les persécutés une photo prise par son père de son masque mortuaire qui en fait clôt le livre des hommes du XXe siècle. Parce que précisément, il vient figer, sans douleur, sans pathos, mais il vient figer ses vies fauchées, puisqu'il avait, il était quand même très très jeune quand il est mort. Qu'il a été quand même emprisonné 10 ans en plus dans sa vie, qu'il a continué à faire de la résistance au sein de la prison. Et puis cette histoire du père et du fils qui gardent leur complicité, il y a une correspondance abondante. Je crois qu'il y a plus de 170 lettres entre les parents et le fils. Évidemment, tout ça est clandestin, mais ils continuent à parler de photographie. C'est-à-dire que même dans cet état-là, il lui demande encore des détails pour savoir comment il faut pour bien poser, pour bien faire poser, etc. Même des détails très techniques, presque triviaux, mais finalement il se rattache à ça. Et d'un coup, la photographie devient vitale, non seulement dans son pouvoir testimonial, vraiment, pour l'histoire de ce temps-là, puisque évidemment, les nazis ne peuvent pas supporter qu'on fasse la documentation en temps réel, et puis pour ce destin personnel de ce jeune homme qui trouve dans la photographie le seul moyen, la seule raison de continuer à vivre. Donc moi, j'étais extrêmement touché par Eric. J'aurais voulu en fait qu'il apparaisse mieux dans le titre, etc. Mais finalement, tous ceux qui iront voir l'expo, j'espère, ne se tromperont pas sur la vraie presque vedette de cette exposition.
Yasmine aussi, à présent.
Oui, Anaëlle a dit, pour moi, le maître mot de cette exposition, Anaëlle, vous l'avez prononcé, c'est humanisme. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment, alors, comme vous, hein, je partage absolument ce que vous dites, c'est-à-dire que Eric est un personnage central de cette exposition. Mais moi, j'ai eu le sentiment de rencontrer Auguste Sander presque pour la première fois. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit, Auguste Sander, à chaque fois qu'il est présenté, c'est toujours à travers les hommes du XXe siècle. Et ce sont des photos dont on ne se lasse jamais, mais qu'on connaît très bien, c'est-à-dire les trois paysans endimanchés, c'est-à-dire le pâtissier, c'est-à-dire la femme de ménage, les trois révolutionnaires avec les cheveux, voilà. Et que là, tout d'un coup, en montrant le travail, en montrant ce qu'il fait dans son, ce qui lui fait gagner sa vie, enfin ce qui lui permet de gagner sa vie, en montrant le travail de son fils, en montrant des photos de lui avec les siens, tout d'un coup, cet homme que je prenais pour quelqu'un d'assez austère, hein, en voyant tout le travail, la rigueur très germanique de ce travail, pour moi c'était quelqu'un d'austère. Et là, tout d'un coup, je découvre autre chose.
On entre dans son intimité,
mais vraiment de plein pied. Et puis, alors ça, c'est important, effectivement, Eric. C'est capital là-dedans. Il y a une phrase que dit Auguste Sander qui est bouleversante en parlant justement de la mort de son fils. Mon espoir le plus grand, il l'a emporté avec lui sous terre. Désormais, je me couche en pleurs et me réveille en larmes. C'est aussi la tonalité de ses photos. Et puis, il y a surtout ce face-à-face entre les persécutés et leurs bourreaux. Et on est quand même... Là, ces photos-là, c'est vrai qu'on connaît essentiellement d'Auguste Sander la République de Weimar. Il a fait un travail colossal sur la République de Weimar, qui semble être vraiment un temps suspendu, un pays vraiment coupé de la réalité.
On se demande si ça a existé,
absolument.
Vrai, il y a quelque chose comme ça avec Weimar.
Bon, là, les photos, les portraits des Juifs qu'il a fait, ce sont des portraits qui ont été faits en 1938. Et la date est capitale, parce que 1938, les Allemands sont au pouvoir déjà depuis 5 ans. 1938, c'est l'année de la nuit de cristal. Les camps sont ouverts depuis très tôt. Ils ont été ouverts, Dachau, je crois, était le premier, ou Dorin, ils sont ouverts. Et les Juifs savent qu'ils sont en sursis. Et on les voit dans ces photos-là. Effectivement, ils sont déjà ailleurs. C'est-à-dire que c'est peut-être c'est presque une victoire. Ils ne les ont pas. Ils sont partis ailleurs. Ce regard intérieur... Enfin, je ne sais pas si mes mots sont très... je le dis avec beaucoup d'émotion. Mais ils sont déjà partis, le voir comme ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant, et effectivement, le fait de les photographier pour qu'on voit le nez, pour qu'on voit les oreilles, tout est déjà dit. Comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister non plus. Ils savent, on sait qu'ils n'existeront plus. Et tout ça est très très fort. Et puis en face, effectivement, il y a les bourreaux,
les dignitaires, nazis,
des gamins, des gamins, vraiment, des jeunesses hitlériennes. Vous voyez ce que c'est qu'un état totalitaire, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vivre, ceux qui vivent et qui ont un droit de vie ou de mort sur les autres, et un droit de vie ou de mort totalement arbitraire.
Ça se voit.
Dans les
portraits d'Auguste Sander, mais il y a quelque chose qui...
C'est vraiment, il y a quelque chose. Alors effectivement, comme Florian, c'est vrai que c'est lourd. C'est pas les trois langues, parce que moi je trouve que...
Bon, ça c'est le
tiens à
préciser
que c'est une exposition
aussi,
gratuite. Donc vraiment, il faut y aller. Alors c'est vrai que c'est lourd comme dispositif, mais ce travail et l'émotion qui en sort fait qu'on s'en fout, en fait.
Annette Bizarre,
mais
vous voulez dire ?
Ça se voit, pour reprendre ce que vous disiez, parce que c'est la méthode de Sander, dont on comprend que ce sont des photographies très posées, et que en fait il pousse ces personnages à construire une conscience, à se construire une conscience d'eux-mêmes extrêmement forte. Et on le sent chez les Juifs persécutés, d'une part, et on sent dans les photographies des nazis un regard d'une ironie absolument féroce. Oui. C'est-à-dire qu'on voit une espèce d'horrible type bedonnant effectivement, il y en a qui sont des enfants qui sont absolument saisissants. Il y a des détails terribles. Par exemple, un bouton de manchette, enfin deux boutons de manchette superposés, un peu mal mis comme ça. Enfin, on sent le regard. Au fond, le regard du photographe est extrêmement éloquent dans ces photographies. Donc c'est pour ça qu'on le sent. Je voulais redire un mot d'Éric encore pour. Donc c'est l'intellectuel de la famille en fait, Éric, et c'est. Comme le disait Florian, quelqu'un qui visiblement a une force intérieure extraordinaire, parce qu'on sait aussi qu'il a été malade avant d'être emprisonné pendant 10 ans, et que malgré tout ça, il continue. Et il y a cette photographie dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement émouvante, d'Auguste Sander à son secrétaire, homme âgé, avec au mur 5 portraits de son fils, le masque funéraire au centre et 4 photographies dans lesquelles il est vivant tout autour. Et je voulais dire un dernier mot sur cette famille qui est quand même assez étonnante, parce qu'il y a le fils, il y a le père, il y a Gerhard aussi qui a participé à la reconnaissance des photos en 78. Il y a une enveloppe qui lui est envoyée et on lui demande de dire ses souvenirs, enfin, de savoir qui est qui sur ces photographies. Et puis aujourd'hui, l'histoire continue parce qu'il y a une galerie et il y a un arrière-petit-fils, je crois, qui s'appelle Julian, je crois. Enfin, en tout cas, il y a une galerie Sander qui est une grande galerie de photographies et c'est en fait assez peu commun.
À propos de famille, juste avant de donner la parole à Florian Gaeté, un commentaire à Issa Tundoy sur via Facebook.
Marie-Charlotte Pagis qui nous rappelle qu'il y a eu une très belle exposition en 2016 sur Auguste Sander au Point du Jour à Cherbourg et que son petit-fils avait alors prêté des clichés qui n'avaient jusqu'alors jamais été montrés.
Alors, comme je lis par-dessus votre épaule, il serait bon de ne pas oublier ce qui se passe en province. Alors, si vous êtes tombé sur la bonne émission, parce qu'on s'intéresse très fort, et le Point du Jour, on en parle très souvent. En plus, moi, j'ai une passion pour la Pointe du Cotentin, mais ça, c'est très personnel. Et donc, j'aime beaucoup Cherbourg. On va pas assez souvent à Cherbourg, certes, mais on parle aussi de leur travail d'édition, qui est absolument formidable. C'est vraiment un haut lieu de la photographie dans ce pays. Florian Gaeté.
Non, peut-être prolonger juste sur ce mot d'humanisme que effectivement je pense est central pour comprendre et pour lire cette exposition. Mais c'est un humanisme qui rompt avec le côté peut-être avec l'objectivité un peu scientifique qu'on a tendance à lui prêter parce que c'est classifié, typologisé. Mais effectivement non, il y a quand même des expressions. Effectivement,
fallait qu'il soit ordonné Auguste Sander avec toutes les photographies qu'il a prises de tous ses métiers. Ouais. Effectivement, il y a un travail d'archiviste, de mémorialiste extraordinaire,
presque d'encyclopédiste.
Oui, d'encyclopédiste, absolument.
Mais en même temps, on a la bonhomie du bourgeois qui n'a pas trop à s'en faire. On a par contre les visages creusés des paysans, etc. Donc déjà, on est très loin de cette neutralité. Il y a des expressions effectivement dans les mises en scène, parce que ce qui est terrible dans ces persécuteurs, c'est qu'ils ne sont pas capables d'être à la hauteur de l'image qu'ils se font de leur propre classe ou de leurs collègues, leurs officiers. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir cette forme un peu imposante et puissante, et puis finalement, on voit qu'elle est en échec, quoi, qu'elle est en défaut. Et puis, il y a une forme d'enjeu politique à niveler aussi, à mettre ensemble les persécuteurs et les persécutés, parce que c'est rompre avec l'élitisme raciste de l'idéologie nazie, qui justement voulait séparer les peuples, plus élus, ou en tout cas génétiquement programmés pour dominer. Et là, non, ils sont traités sur un même pied, et donc ça coupe court à toutes ces visions-là du monde. Donc même si, effectivement, Sander est plutôt, le démocrate socialiste un peu modéré par rapport à son fils marxiste très engagé qui justement est allé en prison pour ça, c'est peut-être pas mal aussi de revaloriser cette dimension plus politique de son œuvre, qui est plus discrète, qui est plus fine, mais qui est pas moins efficace et agissante.
Vous adhérez, Yasmine, aussi?
Totalement. Totalement. Enfin, ceci dit, pour moi, l'objectivité n'existe pas en photographie.
Ni en critique.
Bon, certainement pas, ça c'est sûr.
J'attendais bien une réaction, elle est venue. Me voilà rassuré. Non, on parlait de ça aussi avec le livre de Jean-Pierre Leonardini, sorti au Solitaire Intempestif, sur cette fonction curieuse qui est la nôtre, cette fonction de critique. Bien, je crois qu'une certaine forme d'unanimité semble s'être dégagée de notre discussion autour de cette exposition. Auguste Sander, persécuté. Alors, on rajoute Auguste et Éric Sander, on change le titre. Persécuté, persécuteur des hommes au XXe siècle. C'est gratuit, c'est jusqu'au 15 novembre, Mémorial de la Shoah à Paris, donc on n'a aucune excuse pour ne pas y aller. Et le catalogue, lui, est coédité par le Mémorial de la Shoah et l'édition Gerhard Steidel.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Bon, on a décidé quand même de complètement changer de registre pour le troisième sujet, après deux premiers sujets très importants et très lourds. Nous parlons d'une exposition en galerie, double exposition d'ailleurs, deux lieux pour la galerie Lelong et compagnie. On va y retrouver un artiste qui a été en pleine lumière voici un an à Londres, à New York et à Paris au Centre Pompidou, je parlais de David Hockney. Il a donc aujourd'hui 81 ans, il présente une nouvelle série de dessins réalisés sur iPad et iPhone, on avait vu quelques-uns d'ailleurs à Beaubourg l'an dernier, et puis une série de portraits, ça c'est dans les deux lieux de l'exposition de la galerie Lelong et compagnie. Un peu de couleur dans cette émission. Et Florian Guettet, vous aurez compris que c'est à votre tour de débuter notre dispute concernant cette double exposition David Hockney à la galerie Lelong et compagnie.
Écoutez, j'y suis allé avec beaucoup d'a priori et pas forcément des bons, et je m'en suis mordu les doigts parce que la rencontre avec les œuvres m'a fait complètement changer d'avis.
Bah, vous en êtes réjoui alors,
ouais,
du coup.
Ouais. Non, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, pour présenter, ouais. Donc, ce sont des séries plutôt récentes de dessins réalisés, donc ce sont des dessins, pas des peintures, mais on va voir que c'est
ouais,
pas si simple.
Oui.
Réalisés à l'iPod, à l'iPad, et puis des montages avec des incrustations de photographies, d'anciennes photographies à lui. Donc, ce sont principalement des portraits, quelques autoportraits. Des portraits, comme d'habitude, de son entourage, hein, ses proches, ses amis, ses assistants, sa famille, ses collectionneurs, etc., des professionnels du monde de l'art. Et donc, ils sont répartis sur deux espaces. Le nouvel espace rue Téhéran accueille les portraits et l'espace plus historique de l'avenue Matignon accueille plutôt les...
C'est l'inverse.
C'est le contraire, pardon.
C'est l'ancienne galerie Noirmont, en fait, à Matignon.
D'accord, pardon.
Avenue Matignon.
Matignon, nouvel espace, les portraits,
ouais.
Rue Téhéran, le siège historique, les natures mortes.
Voilà, Pictures of Daily Life. Ça aurait pu être le titre de Romer Adams, mais c'est celui de David Hockney.
N'est-ce pas? Oui, mais il y a beaucoup de liens finalement à faire, contre toute apparence, j'ai envie de dire. Quoi.
Allons-y.
En fait, moi j'ai trouvé que David Hockney est un grand, grand classiciste, pour pas dire un peintre conservateur, et que même quand il utilise des nouvelles technologies, finalement, ça ne répond pas du tout à une logique de l'innovation. Et c'est ça qui est assez fou. Déjà, c'est une trajectoire personnelle. C'est pas du tout l'opportunisme, c'est vraiment une trajectoire. Il a toujours aimé les technologies. Il a été un des premiers à s'acheter le photocopieur Xenox à l'époque. Il a envoyé pour sa première commande de musée sa pièce en 4 feuilles livrée par fax. Il a eu le Polaroid, évidemment, etc. Donc, il a toujours un rapport assez fétiche à la technologie, mais c'est pas pour autant un féru de l'innovation, dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, il refuse de faire des mises à jour de ses applications parce qu'il a trouvé un outil qui lui va bien et qu'il n'a pas forcément besoin d'en changer tous les 4 matins. En fait, dans le premier espace que j'ai visité, qui est donc à l'avenue Matignon, on voit un parcours qui pourrait se dessiner entre une photo, qui est un portrait pris dans le parc du Luxembourg, et puis donc on a tous ces portraits nouveaux, on va dire assez récents, pardon, de réalisés à l'iPad, à la tablette. Et on finit par des dessins beaucoup plus anciens, des années 70 jusqu'à, je crois, 80 pour le plus récent, et une lithographie. Et c'est vraiment ça, en fait, cette production, elle est prise en étau entre la photographie et le dessin. Déjà, on nous rappelle que c'est quelqu'un qui sait dessiner, parce qu'au début de sa carrière, on l'a un peu catégorisé dans les arts décoratifs ou dans le truc de graphisme, mais en fait, c'est un dessinateur avec un trait très assuré. La photographie intervient beaucoup dans les notions de cadrage. Hein. Il a effectivement des références très très fine, très référencée, très érudite à ce qu'est la photographie en art, la perspective avec évidemment la perspective inversée qui est quelque chose
qui reprend son dada, il
reste là-dedans parce que pour lui c'est une façon évidemment d'inclure le spectateur,
faire rentrer le spectateur dans l'image
et donc du coup d'avoir quelque chose de plus affecté, plus vivant contre on va dire la médiation, la représentation un peu plus mortifère de la perspective classique. Et puis dans la matière, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il peint donc le plus souvent avec un stylet ou avec son doigt, et donc il rappelle que aujourd'hui l'espace virtuel est aussi un lieu du toucher, et c'est un lieu avec une nouvelle matérialité. Contre toutes les spéculations sur la dématérialisation, lui nous montre qu'au contraire, c'est un moyen d'être directement au contact du dessin, de la forme, et on trouve des choses assez extraordinaires, quoi. Vraiment des pointillismes, des références pointillistes, des choses beaucoup plus matriciennes, notamment dans les natures mortes. Où on retrouve ces motifs-là, on a du color field, on a des références à Dürer avec vraiment des grattages, des ombres de très très proches de la gravure, c'est quelqu'un qui l'aime citer aussi. Donc moi je me suis retrouvé vraiment dans quelque chose d'effectivement assez classique, mais que je regardais avec des nouveaux yeux parce que c'était malgré tout une nouvelle matière. Et je trouve qu'il a cette faculté-là à nous présenter une nouvelle matière, une nouvelle matérialité.
Convaincu, Yasmine aussi ?
Ah, totalement.
C'est vrai ?
Ah, totalement. Ah,
je me demandais
totalement bien
ce que vous alliez pouvoir dire.
Non, vraiment, moi, je trouve même que cette exposition devrait être prescrite comme un remède à la morosité ambiante, quoi. C'est vraiment... elle est phénoménale. Je crois que j'ai lu une phrase en fait de son galeriste historique, hein, Casmine, que je trouve très juste. Il dit que finalement, ce qui caractérise l'art de David Hockney, c'est son insolence. Et cette insolence, elle éclate au grand jour ici. Alors, qui c'est David Hockney ? C'est quand même le plus grand. On peut dire que c'est le plus grand artiste historique britannique aujourd'hui. Il a 81 ans. Et cette exposition, je dis que elle devrait nous être... c'est un remède parce que on sent le bonheur qu'il a encore de peindre, de travailler, de dessiner, de la liberté avec laquelle il le fait, et c'est communicatif. Moi, ça rejaillissait sur moi complètement. C'est presque comme Picasso à la fin de sa vie, où tout d'un coup, il avait encore tellement de choses à dire, quoi. Et là, c'est le cas. La force de Hockney, c'est d'abord sa maîtrise, mais ça relève de la virtuosité, du trait, du dessin. Et la liberté, comment il utilise cette virtuosité, la liberté avec laquelle il utilise cette virtuosité, effectivement, de tout reprendre, les perspectives, il y a quelque chose d'éblouissant là-dedans. Alors l'iPad, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, il m'avait vraiment ébloui. C'était il y a quelques années quand il avait exposé à Londres et puis après, il parlait de l'iPad, il disait... Donc en fait, l'iPad, c'était super parce que ça lui permettait de travailler sans peinture et sans assistant, mais que quand même, il continuait à se frotter les doigts, à s'essuyer les doigts, surtout quand il allait prendre du jaune. ça m'avait beaucoup fait rire. Et là, mais l'utilisation de la couleur, il y a ce compotier, ce que vous rapprochez, je pense que vous pensiez à ça quand vous parliez de Matisse tout à l'heure, ce compotier avec... En vert, le jeu des transparences pour rendre compte de la matière, de ce vert comme matière et de ce vert comme couleur, ça vous laisse sans voix. Ça vous laisse. Enfin, moi, ça a été.
Heureusement, vous en avez encore un peu.
Ouais.
Ce serait gênant pour la radio.
Mais moi, j'aurais eu les sous, j'aurais tout acheté. Et puis cet humour anglais. Il y a cette donc reproduction d'un dessin sur iPad, d'une prise. En fait, il veut recharger son iPhone. Et donc il lui faut. Il y a la prise de l'iPhone, la prise britannique qui va sur la prise américaine. Et puis il y a au pied. Donc déjà le reflet sur l'iPhone, on a l'impression que c'est le masque d'un Anonymous ou de quelqu'un. Ouais. Voilà. Et puis le bouquin qu'il y a au pied sur lequel repose l'iPhone, qui dit Will Europe ever fit? Est-ce que ça marchera un jour, quoi? C'est vraiment, bon, ça a été fait avant le Brexit, mais voilà, c'est cette insolence, cet humour, cette virtuosité, tout ça mélangé, vous saute à la figure, vous prend à la gorge. Et moi, je vous dis, je serais repartie avec pratiquement tout.
Bon, bah déjà, vous y êtes allé, c'est bien. C'est une exposition de galerie, c'est une entrée libre.
Une entrée libre,
là
absolument.
Là encore, n'ayez pas peur d'entrer dans les galeries pour y rencontrer l'art. Ça
et on est
pas.
Très bien accueillis hein, chez Lelong.
En l'occurrence.
Il y en a, vous avez l'impression de gêner.
Oui, mais c'est pas grave, on peut rentrer quand
oui,
même.
Mais chez Lelong, on est très bien accueillis.
Oh, oui, en l'occurrence. Anaëlle Pija, allez, un avis contraire. Vous avez détesté, vous pouvez le dire, ces expositions.
Je suis
les gens vont dire, il n'y aura pas, y a pas eu de dispute ce soir.
Un peu comme Florian, je suis arrivée en me disant, bon, on a vu beaucoup de David Hockney. J'adore David Hockney, mais on a vu beaucoup de David Hockney.
Et les iPads, dans l'expo de Beaubourg, ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux.
À Londres, c'était fabuleux.
Oui, les iPads, c'est moi, je l'ai vu à Paris.
Y a des... Non, la première exposition, le premier travail sur le parc Yosemite, il était...
Vous laissez parler à Anaëlle.
Pardon. Excusez-moi.
Les iPads, on les avait vus à la Fondation Pierre Berger. Et là,
enfin, vous en tout cas, parce que dessins, je ne sais pas de qui ça parle. Vous les avez
le
vus.
Le visiteur avait pu les voir à la Fondation Pierre Berger.
Voilà.
Et en fait, c'est assez intéressant de voir quand même ces œuvres sur des écrans sur lesquels elles ont été faites. Peut-être ça, c'est une petite réserve qu'on peut apporter à l'exposition, qui par ailleurs est tout à fait intéressante. Je suis arrivée effectivement en me disant, bon, c'est des œuvres qui ne sont pas si neuves. Hein. Essentiellement, elles sont enfin, en tout cas, les Daily Life, elles sont de 2009 à 2010. Ouais. Et puis, ce sont des tirages à 25 exemplaires. Donc, par rapport à l'exposition du Centre Pompidou, c'est une toute petite chose. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de griserie dans l'exposition qu'on sent d'amusement qui est vraiment contagieux. Florian faisait allusion au moment où, en 89, je crois, David Hockney avait fait envoyer sa participation à la Biennale de São Paulo par fax. Quand on lui a demandé comment il souhaitait que l'œuvre lui soit rendue, il a répondu qu'on pouvait lui refaxer. L'œuvre. Ce qui est bien dans cette exposition, c'est qu'au fond, c'est vraiment une exposition atelier. On le voit à l'œuvre. Et je voudrais signaler un petit livre de Jean Frémont qui s'appelle justement David Hockney à l'atelier, qui est édité par l'Échoppe en 2017. Jean Frémont, c'est la galerie Lelong. Et c'est assez rare pour le mentionner, un galeriste qui écrit des livres.
Et des bons livres.
Et des livres absolument merveilleux. Celui-ci raconte vraiment une série de. Enfin, raconte une série de. Enfin, sa fréquentation. De David Hockney depuis une quinzaine d'années. On apprend par exemple qu'il a fait coudre une poche à l'intérieur de tous ses costumes pour avoir son iPad toujours auprès de lui. On le voit, comme Florian l'a décrit, vraiment manier cet outil et en prendre pleinement possession. On voit aussi dans l'autre galerie une photo intéressante qui montre un accrochage dans l'atelier, complètement fabriqué évidemment, fait avec des milliers de photographies montées pour donner l'illusion, avec un jeu de mise en abîme absolument passionnant et aussi très amusant, pour donner l'impression qu'on est dans l'atelier avec des œuvres accrochées. Et deux de ces immenses photographies, qui je crois font 6 ou 8 mètres de long, seront montrées à Londres cet été pour le Summer Show de la Royal Academy. J'ai très envie de les voir.
Vous irez avec Yasmine.
Voilà.
Non, moi, je veux récupérer l'argent pour les acheter.
Il y a aussi...
C'est pas les plus chers, hein.
Ce qu'on présente là.
Ouais.
Oui, non, ce qui est pas. Ouais, oui, enfin. Il faut trouver 25 000 euros, quoi.
Ah, c'est 25 000 euros?
Ah, bah oui, c'est 25 000 euros, il faut les trouver.
Si on ne les a pas, on peut toujours regarder l'exposition et prendre ce corpus comme aussi un filtre de lecture pour l'ensemble de son travail. Il y a un très beau texte de Didier Ottinger sur la transparence, sur la manière dont, depuis ses débuts, il travaille l'eau, le verre, le caractère plus que transparent, le caractère diaphane de ces matières qui se retrouvent au fond dans la vitre de l'iPad.
C'était la chute.
Vous voulez que ça mine, c'est un peu trop vite, bah, je vous accorde.
19h57, on doit s'arrêter pour parler maintenant effectivement
David Hockney diaphane, c'est ça que
David
vous
voulez dire. Deux expositions à la galerie Lelong et compagnie, puisqu'il y a deux lieux, 13 rue de Téhéran et 38 avenue Matignon, et donc un catalogue bilingue publié pour l'occasion. Et elle a couru de part et d'autre du studio Camille André après avoir live tweeté, nous rejoint comme chaque soir pour le jeu de la dispute et nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier au soir avant de nous donner sa réponse.
Eh bien, on se demandait hier pour quelle raison Abdelreza Kahani a-t-il choisi un couple marié dans la réalité pour incarner le couple présent dans son film. Eh bien, c'est pour se conformer à la censure iranienne et mettre en scène quelques contacts physiques entre les deux personnages.
On va parler du film Les Rives du Destin, vendredi soir, dans La Dispute. Ce soir, on fait gagner des invitations pour un autre film dont on parlera vendredi soir, Une année polaire, de Samuel Collardet, qui est sorti ce jour. La question, Camille ?
Eh bien, quel est le premier long métrage réalisé par Samuel Collardet ?
Excellent film, au demeurant. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de La Dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous en profiter pour vous abonner au podcast de La Dispute, comme ça, en passant. Demain, à 19h, Dispute littérature, nous serons avec Lucine Como, Elisabeth Philippe et Philippe Chevillet à notre sommaire L'Arpenteur des Ténèbres d'Anthony Casas Ross au Castor Astral, La Femme qui Ressuscite de Daniel Oswald aux nouvelles Attila et Lettre à un jeune auteur de Colm McCann chez Bellefond.